ici Stephen Zurbinski. Voici les informations. En Montérégie, le motocycliste qui avait subi de graves blessures à la suite d'une collision avec une voiture hier à Saint-Pie a succombé à ses blessures. La collision s'est déroulée vers 17 heures sur le rang du bas de la rivière. L'auto aurait dévié de sa voie avant de percuter le motocycliste qui était âgé de 63 ans. Il a été éjecté de son engin. Le conducteur du véhicule fautif, un individu également âgé de 63 ans, pourrait faire face à des accusations de conduite avec les facultés affaiblies. Sur la rive sud de Montréal, deux événements impliquant des coups de feu se sont déroulés vers minuit sur le boulevard Taschereau à Longueuil. Il n'y a pas eu de blessés. Les enquêteurs se trouvent notamment aux abords du cinéma Guzzo dans l'arrondissement de Greenfield Park. Une balle aurait touché un véhicule dans le stationnement. Alors, des coups de feu ont également été tirés en direction d'un motel situé non loin de là. Un homme dans la soixantaine a été arrêté et souffrirait de troubles mentaux. Ces deux événements n'auraient aucun lien d'ailleurs avec les fusillades qui se sont récemment produite sur la rue Louise à Longueuil. Feu de forêt dans l'ouest canadien. Maintenant, en Colombie-Britannique, l'inquiétude est grande. Le feu de Parker Lake, près de Fort Nelson, n'a plus que doublé en superficie hier. Les autorités qui craignent que les vents ne poussent les flammes et atteignent la municipalité ce matin. Elles demandent à ceux qui sont toujours sur place de quitter les lieux immédiatement, alors qu'il n'y a plus d'aide disponible. On estime à 100 ou encore 150 le nombre de personnes qui n'ont pas répondu à l'ordre d'évacuation. Un peu de sport, football canadien, les Alouettes de Montréal qui ont lancé leur camp d'entraînement hier au complexe sportif Claude Beaulieu de Saint-Jérôme. Sur la centaine de joueurs présents au camp, 55 sont des nouveaux. C'est donc une toute nouvelle équipe qu'il va falloir préparer pour la saison 2024. Et devant les médias, le directeur général Danny Machocha a donné quelques pistes sur les positions à combler au sein de l'équipe pour la nouvelle campagne qui approche.
Il y a des décisions à prendre à la fin du camp pour déterminer dans quelle direction on s'en va avec la tasse de porteur. L'autre, c'est sûr que c'est la ligne défensive. Je pense qu'on a des excellents joueurs à l'interne. Je pense qu'on devrait être capable de se rendre aux carrières. Alors, c'est qui les deux ou trois qu'on devrait garder? Puis c'est qui le quatrième qu'on va garder sur le practice roster aussi?
Le gouvernement et les universités s'affairent à trouver des solutions pour un meilleur accès à un médecin de famille au Québec. Pour mieux valoriser la médecine familiale, le discours politique doit d'abord changer, estiment plusieurs étudiantes et médecins de famille. Camille Boileau, de l'Université de Sherbrooke, qui a terminé sa première année de résidence au GMFU Charles Lemoyne, nous parle de l'accent qui est trop souvent mis sur les statistiques selon elle.
On valorise beaucoup le débit dans une pratique au lieu de l'humanité, dans les discours politiques. Pourtant, la raison que la plupart d'entre nous, on va choisir la médecine de famille, c'est pour notre contact humain avec le patient et l'accompagnement dans les soins.
Et en terminant, le rapport Banking on Climate Chaos, rapporté par la presse, révèle une augmentation du financement des énergies fossiles par les banques canadiennes qui a dépassé 140 milliards de dollars l'an dernier. La Banque royale du Canada qui est en tête avec un peu plus de 38 milliards de dollars. L'étude indique également que pendant que les autres banques de par le monde réduisent pourtant leurs investissements dans les sables bitumineux, eh bien les banques canadiennes ont financé près de la moitié des 6 milliards de dollars versés en 2023 aux 36 entreprises des sables bitumineux les plus importantes. Vous écoutez Cogeco Nouvelles.
FM 93. Météo.
C'est du soleil pour aujourd'hui. Ça va devenir alternance soleil-nuage un peu plus tard aujourd'hui, donc vers le début de l'après-midi, un maximum à 16 degrés. La nuit prochaine, on parle de temps généralement nuageux, minimum à plus 9. Et demain, des averses qui débutent en après-midi, maximum à 14.
FM 93.
C'est le titre
avec Jean-Claude Chilina.
C'est les petites vites.
Avoir appelé Santé Canada.
Bonjour, elle a l'appareil, comment puis-je vous aider?
Oui, bonjour, guide alimentaire canadien.
Oui.
Région de Terrebonne, guide alimentaire des Sardessins. Comment allez-vous?
Bien, vous?
Félicitations, votre guide alimentaire canadien.
Merci.
Moi, je fais attention à mon alimentation.
D'accord.
Oui, mais j'ai pris mes 6 légumes aujourd'hui.
D'accord.
Oui, 6 blancs demeurés, donc 6 céleri. À part ça, moi, chaque jour, je prends de la vitamine D.
D'accord.
Ben oui, dry gin, dry martini, puis motion dry. C'est de la vitamine. OK, bye-bye.
Au revoir.
Vous travaillez pas à cochon.
D'accord.
Restaurant Valentine.
Oui, bonjour, restaurant Valentine.
Oui.
Bonjour, Conrad Dionne, vice-président des restaurants Valentine au Québec. Ça va bien, votre Valentine?
Oui, ça va bien.
À qui ai-je l'honneur?
Karine.
Ça, c'est un beau prénom à la fois court, distingué et délicat. Excuse-moi, je suis un grand sensible. Je suis un peu comme notre sauce à poutine, j'ai un mouton dans la gorge. Marketing is the best thing. Je fais le tour de mes franchisés en raison de la sortie du nouveau guide alimentaire canadien. T'as entendu parler?
Oui.
Ben, maudit guide alimentaire canadien, à cause d'eux autres, on est obligé de modifier les affaires chez Valentine.
OK.
Peux-tu prendre ça en note? On va offrir dorénavant la poutine au tofu. Le hot dog à l'humus.
Oui.
Le club viande verte.
Oui.
Le smoked meat, pas de meat.
C'est quoi ce gag-là?
Et les rondelles d'épinards.
C'est un gag, ça?
Mais non, c'est très marketing, tu trouves pas?
Oui, pas mal, oui.
Et rappelle-toi des frites, mais non, c'est bon pour le derrière de nos clients.
C'est bon.
Nous, chez Valentine, on s'est toujours dit un esprit sain dans un corps plein.
C'est très drôle.
Merci beaucoup. Au revoir, Marquiti.
Au revoir.
CFX 93, son équipe et le studio McDonald, un trio de champions. CFX FM 93. Réveil Rimouski à CFX 93. La radio qui fait avancer les dossiers dans l'Est du Québec. Rimouski, la référence en information.
Et oui, 7h07, beau soleil, mais ça ne durera pas. Puis mardi, mercredi, ben on parle d'averse, donc mercredi aussi. Et pour la fin de semaine, j'aime mieux ne pas vous dire ce que l'on prévoit parce que vous risquez de passer une mauvaise semaine. Donc, Pierre, dans l'actualité sur la scène régionale.
Oui, alors les opposants au projet de prolongement de l'autoroute 20 estiment que le comité mis en place par le ministère des Transports est un comité bidon. Mm-hmm. Ce matin, Québec annoncera l'investissement pour l'atténuation des risques côtiers, les risques liés à l'érosion côtière à Rimouski. On l'a fait la semaine dernière pour quatre municipalités de la Métis et de Matane-Matapédiap. Plus de 250 élus et experts en transport collectif se sont réunis vendredi dernier sous l'égide de l'Union des municipalités du Québec. Également, les travailleurs syndiqués de la Société de protection des forêts contre le feu viennent de voter à 99% pour le déclenchement d'une grève au moment opportun. Et la ville de Rimouski entreprend aujourd'hui d'importants travaux de planage et d'asphaltage.
Merci Pierre. Émile, au sport.
Bien, au sport, le Drakkar est en situation précaire, en retard 2-0 dans la série finale contre les Voltigeurs de Drummondville. Le 3, lui, qui perd la Coupe Evirom aux mains de l'assurance de Thetford. Dans la Ligue nationale de hockey, les séries battent leur plein et même chose dans la Ligue féminine.
Tous les détails de ces nouvelles et d'autres à 7h30.
Réveil Rimouski à CFM 93. Primeur, nouvelles régionales, réseaux sociaux, sport local, opinions et commentaires. Rimouski et l'Est du Québec, Réveil Rimouski et votre émission d'information du matin. L'actualité nationale et internationale.
À l'actualité internationale, on va commencer par le national. Donc, une nouvelle lettre tient donc signée par 80 militants de Québec solidaire, donc qui appuient le virage souhaité par Gabriel Nadeau-Dubois. Donc, il y avait eu une lettre de 40 personnes. Il y a aussi là une autre lettre la semaine dernière qui condamnait ce virage-là. Donc, là, aujourd'hui, il y en a une qui est signée par 80 militants et qui appuie le virage souhaité par Gabriel Nadeau-Dubois chez QS. Après McGill, ben, un autre campement donc apparaît à l'UQAM. Je me demande aussi là pourquoi c'est pas apparu depuis longtemps là, à l'Université du Québec à Montréal. La fin des incendies de forêt, donc la saison des incendies de forêt est en marche dans l'ouest du Canada. Ici au Québec, c'est au beau fixe pour l'instant, mais il n'y a pas encore fait chaud là. C'est pour ça qu'il faut pas crier victoire trop vite. Les fonctionnaires fédéraux en furie contre l'obligation de se présenter au travail 3 jours par semaine. Les syndicats qui montent aux barricades, on en a entendu parler vendredi, beaucoup de ça, et on en parle encore ce matin dans les journaux. Donc, les fonctionnaires fédéraux qui tiennent à continuer à travailler en télétravail. Ouais. Je me demande là où est, en tout cas, me semble qu'avec les conditions de travail qu'ils ont, avec les salaires qu'ils ont, c'est pas trop demandé de demander à des gens de se présenter au bureau de temps à autre. Tu penses de ça, toi, Émile? As-tu une opinion là-dessus?
Ben moi, mes deux parents sont fonctionnaires. Ouais. Ma mère est fonctionnaire fédérale et à temps plein en télétravail, étant donné son bureau chef à Ottawa. Mais ouais. Mon père, lui, est fonctionnaire provincial dans le ministère de Madame Maître Blanchette-Vézina.
Ah oui, oui.
Et il demande 2 jours. Ben c'est format hybride là.
Oui.
C'est 3-2. Tu peux te présenter 3 jours au bureau, 2 jours en télétravail,
ouais,
ou 3 jours en télétravail, 2 jours au bureau. Mais tu sais, c'est ça, ben j'ai travaillé là-bas moi aussi, là, en tant que dans l'entrepôt. Moi, évidemment, c'était toujours sur place, étant donné que j'étais dans un entrepôt informatique.
Il y a des choses que tu peux pas faire en télétravail.
C'est ça, on peut pas tout faire en télétravail, ouais. C'est magique, mais pas pour tous les types d'emplois. Mais vraiment, ça semblait populaire, cette formule-là. Souvent, le jeudi, vendredi, il y avait pas grand monde dans le bureau, mais tu sais, lundi, mardi, mercredi, c'est souvent ça, là. Lundi, mardi, mercredi, on se présente au bureau, puis jeudi, vendredi, ben on reste à la maison.
Hey, mais est-ce qu'on travaille à la maison? Ça, c'est la bonne question, par exemple.
Ben, en tout cas,
moi, je peux dire, je vois du monde, là, qui sont en télétravail dans les commerces, là. Enfin, les fins de semaine, les jeudis, vendredis, là, ça, je peux être sûr de ça, là. Ouais. Pendant la pandémie, il y avait des employés que j'ai vus, moi, là, qui faisaient du télétravail sur leur téléphone en fil pour rentrer chez Walmart.
Ouais, mais il y a ce phénomène-là, mais en tout cas, moi, de ce que j'ai pu remarquer, c'était pas le cas. Écoute, nous, quand je travaillais là-bas, le travail se faisait tout le temps. On avait souvent des réunions de productivité, puis c'était toujours correct. Donc, tout le monde faisait son travail, même à la maison. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est dosé. Je pense que quand le format hybride, je pense que c'est parfait parce que, tu sais, tu vas prendre... Tu as tes habitudes au bureau et tout, puis après ça, ben tu reviens à la maison, puis tu te dis, ben là, si jamais je suis pas assez productif, ben va tout falloir que je reprenne ce que j'ai pas fait lundi, mardi, mercredi. Ouais. Donc c'est peut-être il y a peut-être ça qui joue, mais en tout cas de mon expérience, de ce que j'ai vu, ce format-là était très populaire et puis ça n'affectait pas nécessairement la productivité.
Ah,
en tout cas au gouvernement du Québec.
Oui, ben à Ottawa par exemple, lorsqu'on voit là, les délais qu'on a pour rejoindre un fonctionnaire à l'impôt ou à l'immigration. Je peux te dire que je sais pas si le téléphone sonne au bon endroit, là, mais effectivement, si le gouvernement fédéral exige là, de ses fonctionnaires qui travaillent en présence là, 3 jours par semaine, il y a peut-être une raison aussi. Donc, on s'en va à l'international. Donc, le procès de Donald Trump qui entre dans un moment charnière avec le témoignage de Michael Cohen, donc c'est son ex-avocat, lui qui a pris beaucoup de poids, là, sur ses épaules, M. Cohen, qui s'est retourné contre l'ex-président. On a hâte de voir qu'est-ce qui va sortir de là, parce que l'argent transitait par lui. Donc, pour les fameux paiements là à certaines personnes, dont Mme Daniels. La Russie de Vladimir Poutine, qui limoge son ministre de la guerre aussi, ça c'est une autre grosse nouvelle. Pas de répit dans les frappes israéliennes sur Gaza, malgré là, les avertissements américains. Il y a peut-être des gens là qui vont croire là que les États-Unis vont cesser leur approvisionnement en armes à Israël et cesser d'appuyer Israël. Moi personnellement, je n'y crois pas, donc ce n'est que du vent là ces menaces là. Et il y a plus de 30 morts aussi dans des combats au Darfour selon l'ONU. Des combats là-bas se déroulent entre l'armée du Soudan et des groupes là, paramilitaires. Ça se passe au Darfour, c'est une espèce de
d'État là à l'intérieur du Soudan. C'est un grand pays, le Soudan. On ne le connaît pas beaucoup, puis on ne parle pas beaucoup de ce conflit-là, mais ça fait un an que ça dure là aussi. Mais il n'y a pas beaucoup de grandes puissances peut-être donc d'impliquer là-dedans. C'est pour ça qu'on en parle moins. Donc il est 7h14 minutes. C'était les manchettes de l'actualité sur la scène nationale et internationale. On s'arrête quelque peu et on vous revient.